Pourquoi le ciel est-il bleu ? Une assez bonne question, dont j'ai appris la réponse à plusieurs reprises. Pourtant, chaque fois que j'essaye de la restituer à quelqu'un ou de me la remémorer, elle m'échappe. Désormais, j'aime me souvenir uniquement de la question parce qu'elle me rappelle que mon esprit est avant tout une passoire, que je suis mortelle. La partie dont je me souviens, le bleu du ciel dépend de l'espace vide et inténébré qui lui sert de fond. Comme le dit un magazine sur l'optique, la couleur de l'atmosphère de n'importe quelle planète, vue sur le noir de l'espace et éclairée par une étoile plus ou moins identique au Soleil, sera elle aussi bleue. Le bleu serait donc un fol accident produit par le vide et le feu.
Passe le temps, 545 années pour faire précis. L'homme ne marche plus dans les églises, Dieu merci, mais dans les nefs étranges des galeries d'art. A fortiori ne marche-t-il plus dans les déserts et sous les rigueurs mystiques du décalogue, mais dans un hypermarché de l'art aux rigueurs moins mystiques. Il arrive pourtant que s'y exposent les signes ou vestiges de quelque habitant du désert. Ainsi le Californien James Turrell, fixé depuis 1977 dans le giron du Roden Crater, un volcan éteint en lisière de ce que les Américains appellent significativement le Painted Desert, le désert coloré de l'Arizona. Très loin de là, un homme qui marche pourra retrouver, au fond d'une cour parisienne, quelque chose comme un sémaphore du désert et, peut-être, au-delà, quelque chose comme l'expérience même du lieu déserté dans les 45 mètres carrés de la petite galerie. Faut passer un sas, passer dans deux rideaux noirs pour accéder à la pièce. Et l'homme qui marche sait déjà que l'espace va cesser de lui être quotidien. Ce qui n'est pas savoir grand-chose, puisque des sas, des portes doubles, on en traverse partout pour pénétrer chez un notaire ou un ministre, ou dans le labyrinthe d'une fête foraine, ou dans un lieu sacré, ou dans un sex-shop, ou dans un sous-marin, ou dans le cabinet des curiosités optiques d'un quelconque palais de découverte. Mais là-dedans, il n'y aura ni prescription de la loi, ni espace retors, ni rituel sacré, ni image inavouable, ni plongée océane, ni merveille de la science, où tout cela mélangé, donc converti, floué, dépassé, en tout cas absolument simplifié. L'homme qui marche entre donc, il entre d'abord dans un élément de brume, quelque chose comme une vapeur, une étrange vapeur sèche qui change avec le temps et qui dans 10 minutes sera presque oubliée. Et pour l'instant, l'homme qui marche s'éprouve lui-même comme devenant flou, à l'image de ses corps égarés, dilués dans les aquarelles de Turner, tandis que devant lui, c'est exactement le contraire qui apparaît, un mélange, un rectangle écarlate, mais sourdement écarlate, un rectangle incandescent, mais fixé dans son incandescence d'une invraisemblable netteté de contour, un rectangle absolument frontal, une masse colorée sans ombre, sans nuance, et qui défait pour l'œil tout espoir de discerner un étagement de plan ou une variation de texture.
L'art traditionnel, c'est comme l'enseignement au lycée et la drogue. C'est fait pour les gens qui ont besoin de rester le cul sur leur chaise pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'ils aient compris quelque chose. Et ce quelque chose, c'est en général que tout se passe quelque part ailleurs.
Que voit-on dans un tableau ? On ne sait pas. On ne sait jamais. On ne nous a jamais appris à voir avec nos yeux. Raison pour laquelle, devant une peinture, nous nous dépêchons de lire le cartel qui indique le nom du peintre, le titre de l'œuvre, la date, etc. Nous nous empressons de prendre des informations afin d'avoir des mots. C'est important, les mots. Je sais quelque chose. Car nous voici sauvés. Nous savons tout à coup le nom du peintre, le titre de l'œuvre, la date, etc. Voici que nous avons quelque chose à dire. Voici que nous avons l'impression de savoir et donc de voir. Youpi ! À partir de là, nous ne voyons plus avec les yeux, mais avec les mots. Nous voyons la peinture à travers les lunettes que les mots nous chaussent, comme si les mots permettaient de mieux voir et que c'était eux qui donnaient à voir, eux qui étaient nos yeux, tout à coup. Grave erreur, car il s'agit d'un tour de passe-passe. Dans ce passage des yeux qui regardent le tableau aux yeux qui lisent ce qui est écrit dessous, il y a le passage de l'image à la parole, des sens à l'intellect, de l'individu à la société. Il y a que nous perdons de vue la peinture et que nous perdons la vue tout court. Loin de nous ouvrir les yeux, les mots ne font que mettre des mots sur notre cécité. Ils nous forcent à regarder ailleurs en socialisant notre regard et en nous empêchant de tomber dans le vide de notre rétine. Car l'œil ne sait pas ce qu'il voit, de même que les cartes ne savent pas qu'elles jouent au poker et de ce fait qu'elles se fichent du gagnant comme du perdant. Les yeux ne savent pas ce qu'ils voient. Ils ne savent même pas qu'ils voient. Comme aux animaux, ils manquent aux yeux la parole et ainsi ne peuvent-ils pas dire ce qu'ils voient. S'ils le pouvaient, ils auraient d'autres mots que ceux que nous plaquons sur la peinture. Par exemple, on arrive à l'orangerie, on entre dans la première salle et ce que l'on voit, c'est Claude Monet écrit en énorme, avec tout ce que ce nom signifie. Ce que l'on voit, c'est le mot « nymphéa ». C'est la date de 1914, c'est le mot impressionnisme, c'est le mot musée, ce sont peut-être les millions d'euros que valent aujourd'hui les tableaux de Monet. Et par-dessus tout, écrit encore plus gros, attention spoiler, ce que l'on voit, c'est le mot chef-d'œuvre. Puisque tout le monde dit que les nymphéas sont un chef-d'œuvre et que tout le monde en est convaincu avant même de voir le plus petit nymphéa peint par Claude Monet. Ce qui fait que malgré soi, on ne regarde pas la peinture, on cherche à voir le chef-d'œuvre. Au lieu de regarder la peinture et déguiser son regard sur elle, chacun s'évertue à faire coïncider les mots qu'il a en tête avec la chose qu'il a devant les yeux, au complet détriment de celle-ci. Car ce faisant, nous passons totalement à côté de la peinture de l'œil, et a fortiori, de celle de la peinture. Et cela vaut pour la musique, cela vaut pour tous les arts, même la littérature. Ce qu'il faudrait, c'est accéder à sa propre voyance, c'est dépasser la légende qui se trouve sous le tableau comme la légende qui l'auréole au-dessus, histoire de se doter d'un regard à soi, d'un regard neuf, d'un regard d'abord muet.
Un jeu fluxus, un jeu qui aurait quelque chose de noble, un rituel dont aucune église ne voudrait car il n'y a là aucune religion à vendre.
Notre homme a fait quelques pas vers la gauche, il voit à présent le rectangle rouge en biais, biaisé avec le visuel, façon de tenter de le comprendre, mais tout devient plus étrange encore et bien plus inquiétant. La surface donc ne serait ni quelconque, ni même éclairée, mais alors d'où vient la couleur? D'où vient la couleur? Quel est le principe physique de son extrême compacité? De combien pèse sa masse? De quel pigment? Autre question obsédante depuis le début, sa texture est-elle faite? Et s'il n'y a pas de pigment, car nul n'a jamais vu un pigment d'une telle intensité, quelle est donc la substance qui permet, qui génère cette couleur-là?
Pour Platon, la couleur était un narcotique aussi dangereux que la poésie. Il voulait exclure les deux de la République. Il qualifiait les peintres de mélangeurs et broyeurs de drogues multicolores et la couleur elle-même de pharmacon. Les fanatiques religieux de la Réforme partageaient cet avis. Ils brisaient les vitraux des églises, les accusant d'être idolâtres, dégénérés. Pour des raisons distinctes, liées au refus de voir l'indigo à bas prix, car produit par des esclaves, pénétrer le marché occidental, longtemps dominé par le pastel, la plante à l'origine des teintures bleues en Europe, le bleu indigo était appelé « teinte du diable ». Et avant que le bleu ne devienne une couleur sacrée, avec l'apparition de l'outre-mer au XIIe siècle, utilisé dans les vitraux et les tableaux religieux, il symbolisait souvent l'antéchrist. Bien sûr, l'outre-mer n'est pas sacré par lui-même. On l'a rendu sacré par cette logique tordue selon laquelle tout ce qui est cher est sacré. Il fallait donc d'abord qu'il devienne cher. Sauf que dès le départ, sa préciosité est née d'une sorte de malentendu. Les peuples anciens croyaient que les veines scintillantes du lapis-lazuli étaient de l'or, alors qu'il s'agissait de pyrite de fer, l'or du sceau. Hormis le potentiel à la fois diabolique et sacré du bleu, personne n'aurait idée de dire que c'est une couleur festive. On ne cherche pas la fête dans une couleur utilisée par les hôpitaux pour calmer les nourrissons qui pleurent ou endormir les esprits agités. Les Égyptiens enveloppaient leurs momies dans du tissu bleu. Les guerriers celtes teignaient leur corps avec du pastel avant de partir au combat. Les Aztèques couvraient la poitrine de leurs victimes sacrificielles de peinture bleue avant de leur arracher le cœur sur l'autel. L'histoire de l'indigo est au moins en partie une histoire d'esclavage, d'émeute et de misère. J'ai lu que dans l'ensemble, les enfants préfèrent que leurs aînés leur transmettent des affaires rouges plutôt que d'une autre couleur. Le goût pour les teintes plus froides, telles que le bleu, vient avec l'âge. De nos jours, en Occident, la moitié des adultes choisissent le bleu comme couleur préférée. Il est tentant d'en tirer un genre de récit de la maturité. La sobriété finit par nous gagner et, avec l'âge, nous nous déprenons de notre amour irraisonné pour l'intensité. Exemple, le rouge. Nous finissons par apprendre à aimer avec plus de subtilité, des choses plus subtiles, etc. Il faut avouer par ailleurs que si cette planète ne manque pas de quelque chose, c'est bien de bleu.
Monet conçut son cycle des nymphéas de sorte qu'on ne puisse pas l'embrasser d'un seul regard. Ici, on a tout le temps l'œuvre devant soi et derrière soi. On est forcé d'être en mouvement, forcé d'entrer dans la ronde. Impossible de voir les nymphéas dans leur totalité. Si bien que, ne sachant où donner de la tête, on est un peu perdu. On est désorienté, on perd pied, déboussolé on est. On ne sait pas vraiment où se mettre ni ce qu'il y a à voir. Avec toute cette eau autour de soi, est-on sur une île au milieu de l'étang? Est-on dans une barque? Sur le pont japonais que Monet avait fait construire à Giverny et qu'il peignit tant de fois? Est-on sur l'eau? Est-on dans l'eau? Et si on était sous l'eau? Si on était dans un aquarium? Ou dans un sous-marin en train de regarder à travers l'œilleton d'un périscope? On ne sait pas. Au vrai, on ne voit rien. Rien de précis, rien de définitif. Il faut en permanence accommoder sa vue entre s'approcher au plus près et se reculer au plus loin, entre myopie et hypermétropie. À quelle distance doit-on se tenir? À quelle proximité? C'est quoi une œuvre qui excède notre champ de vision et dont on ne peut saisir que des fragments, des bribes, des éclats? Une œuvre qui crée son propre manque? Une œuvre qui oblige à choisir entre plusieurs points de vue puisqu'elle n'en offre aucun qui soit fixe et certain. Avec ses nymphéas, Monet disait avoir voulu peindre un tout sans fin, une onde sans horizon et sans rivage. C'est réussi.
Je pense qu'il faudrait des espaces perdus. Il faudrait cesser de les démolir. Il faudrait construire des espaces perdus. Des espaces vides, vastes. Des espaces libres, des espaces nus, où tout peut s'inscrire, où l'image est parfaitement visible dans son intégrité, dans son intégralité, pour tous les spectateurs et proche de chacun d'eux. Des espaces dans lesquels ce qui doit être vu dispose d'une surface supérieure à la surface, où se tiennent ceux qui sont venus pour voir, pas forcément nombreux, où qu'il n'y ait aucune séparation entre ces deux surfaces. Des espaces perdus, ce seraient aussi des espaces flottants, indéterminés,
d'aucune spécificité particulière. Des espaces vagues, lieux qui inspirent, esprit et mur ensemble. Lieux dilatés.
Une béance, simplement une béance, une chambre béante de lumière rouge, une lumière qui néanmoins continuera de faire pan, de s'interrompre aussi abruptement, aussi verticalement qu'un mur. L'homme qui marche aura été tenu en respect par un trou, un lieu évidé de toute chose, à un lieu saturé de couleurs atmosphériques. Voilà donc comment cet objet, fait de trois fois rien, tient notre homme en respect sous son regard impersonnel. De loin, en effet, la pièce n'est que trop discernable, aiguisée, frontale. Mais si l'on se risque à s'approcher vraiment, à mettre son visage tout contre la couleur, alors celle-ci dévore notre regard, transforme le devant en dedans, abolit l'espace coloré pour nous plonger dans un lieu de la couleur, nous happer dans le piège de son ouverture, dans sa dangereuse absence de limite, son brouillard, sa poussière de cadmium. Se souvient-on qu'être sur terre veut dire être sous le ciel et que le lieu réinventé se souvient toujours lui-même que des temples ont été construits autrefois pour incarner ce souvenir même. Terrell, l'habitant du désert, l'artiste californien, l'amateur de vol en solitaire. Terrell sait bien qu'être sur terre signifie être sous le regard du ciel. Là encore, il n'est pas besoin de diviniser les astres pour éprouver en nous cette contrainte essentielle à notre station terrestre, à nos démarches, à nos désastres, à notre sentiment de l'espace en général, qu'est la voûte.
Les deux vieilles portaient des voiles noires sur la tête comme les veuves andalouses. Elles souriaient, leurs regards se croisaient. L'une des deux me dit « Voyez, autour de nous. » Et autour de nous, il y avait des tapis, une table, quelques chaises. Elle dit « Nous sommes peut-être dans un appartement, peut-être au troisième étage d'un immeuble, et dehors, plus loin, il y a peut-être le ciel et l'air, le vide. » Peut-être au bas de l'immeuble, au sol, des haies, des buissons, et plus loin, des maisons, d'autres immeubles, des grands espaces peut-être, des stades, des piscines. Et sur les maisons, des toitures peut-être, et dans les maisons peut-être des murs et des images sur les murs, et plus loin peut-être des chemins et d'autres villes, et plus haut peut-être l'atmosphère, le firmament, peut-être l'espace. L'ensemble de l'univers. Nous sommes dans un appartement, peut-être. Mais comment pourrions-nous le prouver? Je dis, par l'appartement lui-même. On peut le toucher, donc il est là. Les deux vieilles femmes se mirent à ricaner entre leurs vieilles mains. Et l'une des deux dit, « Oui, c'est ça, on le voit, donc il existe. Et si je vous ordonnais de penser à une cuillère munie d'une bouche et qui parle, vous la voyez? Bah, donc elle existe, alors. » De même, ces tapis, et elle me montra du doigt les gros tapis au sol. Ces tapis n'existent peut-être pas, ou peut-être qu'ils existent, mais peut-être qu'ils ne sont pas là, peut-être qu'ils sont ailleurs, ou peut-être qu'ils sont des animaux. Il s'agit peut-être de vos parents. Ils sont peut-être vous. Qui ça? Les tapis, peut-être. Les tapis sont peut-être moi. Pourquoi pas, peut-être? Je regardais les objets, et ils avaient l'air d'objets. La table était une table, mais elle aurait pu être autre chose, oui. Et je pouvais me dire, cette table est peut-être une table, mais elle est peut-être autre chose. Ces tapis sont peut-être des tapis, mais ils sont peut-être autre chose. Pourquoi croire mes yeux? Ils me trompent, peut-être. La femme me dit, peut-être. Peut-être quoi? Peut-être tout. Les haies dehors et les buissons, les maisons, les immeubles, les grands espaces, les stades, les piscines. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont là? Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont encore là quand vous leur tournez le dos? Et je dis, les images le prouvent, les photos. À nouveau, les deux vieilles femmes cachèrent leurs figures dans leurs vieilles mains. Et elles se regardèrent par les petits espaces entre leurs doigts. Et je voyais leurs yeux qui se croisaient et qui riaient. Et je vis une larme de rire au coin de l'œil de celle qui me dit « Vous croyez aux images, vous ?» Alors dans la nuit noire, dans le vent, la grêle, je vous donne l'image d'une maison pour que vous puissiez vous abriter. Si les images sont des choses, j'enverrai la photographie d'un repas à ceux qui crèvent de faim. Je leur enverrai l'image par la poste et j'écrirai « Bon appétit !» Je m'approchais de la fenêtre, j'observais le ciel, il était bleu. Une des vieilles me dit « Peut-être, peut-être y a-t-il un ciel, une atmosphère, l'espace, l'ensemble de l'univers. Mais qu'y a-t-il derrière, derrière le ciel, derrière l'espace? Ne serait-ce pas rien? Peut-être rien ?» L'autre vieille dit « Rien, c'est l'absolue non-certitude. Le bleu n'est pas si bleu, les êtres humains ne sont pas si humains. Tout est relatif. » Nous ne sommes sûrs de rien, si ce n'est de l'absolue certitude. » Et elle sortit un petit miroir de sa poche. Elle me dit « Regardez !» Et j'ai vu mon visage, quelque chose de nouveau monter en moi. Elle me dit « Vous êtes sûr ?» Je regardais mes yeux, ils me fixaient. Et dans mon visage, ils étaient en train de vivre. Elle me dit « Répondez à ma question. Vous êtes sûr ?» Et je voyais mon nez, mes joues, l'assemblage de mes yeux, mon nez, mes joues, mes cheveux, mes oreilles et ma casquette et l'expression de cet ensemble. Je trouvais ça bizarre et miraculeux. La vieille me dit « Vous êtes sûr ? Sûr de quoi ? De ce que vous voyez ? Non. Je ne suis pas sûr. De ce que vous croyez ? Non, je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. Comment allez-vous? Je vais peut-être bien, ou peut-être mal, ou peut-être... Où êtes-vous à l'heure actuelle? Je suis peut-être dans un immeuble. Oui, peut-être. Et que faites-vous en ce moment? Je suis peut-être en train de discuter avec vous? Oui, peut-être. Qui sait?
Lorsque des gens me disent que cela n'est pas de la peinture ou de la sculpture, je leur réponds que c'est moi qui invente la peinture ou la sculpture. Ce ne sont pas elles qui m'inventent, moi. Et pour ne pas créer des confusions, je leur dis, je me suis laissé inventer par les arts plastiques. Mais à l'instant où ils ont cessé de m'inventer, j'ai inventé ces arts comme j'inventerais des milliers d'arts.